Bonjour, c'est l'heure de votre émission Parole aux auditeurs, une émission 100% interactive de Radio Okapi. Une opportunité qui vous est offerte afin de vous exprimer sur des sujets d'actualité qui vous intéressent, qui vous préoccupent. Ce mercredi, nous allons plonger dans le domaine des droits de l'homme, un vaste sujet. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le travail des défenseurs des droits de l'homme, leurs actions et surtout l'impact de leurs actions dans la société. Une question qui nous vient souvent à l'esprit, à quoi sert le travail de l'activité des droits de l'homme dans nos milieux? Nous allons décortiquer cette question en lançant notre discussion sur une seconde interrogation à laquelle vous, chers auditeurs, vous allez répondre, donner votre avis, vos propositions. Quel regard portez-vous sur le travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC? Nous avons invité pour vous dans ce studio un expert en la matière. Il s'agit de Maître Rufin Luco. Il est avocat après avoir été militant dans les ONG de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, il est porte-parole du ministre de la Justice et des droits humains. Si vous voulez participer, contactez-nous au 081-890-6315. Vous nous écrivez à l'adresse internet pa@radiocapi.net. C'est une photo qui relamait Nicole Dakar, sont à la réalisation de cette émission et Alain Boy est à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-76-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
En attendant que notre invité fasse son entrée, il s'agit de Rufin Luco, il est le porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. Il puisse venir dans ce studio pour qu'on puisse échanger sur cette question qui est assez épineuse des droits de l'homme. Nous avons déjà en ligne plusieurs auditeurs qui veulent participer. Vous avez composé le 081-890-6315 ou bien vous nous avez écrit à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Salé est au bout du fil, il est à Calémy. Bonjour Salé.
Bonjour.
Oui, à Calémy, est-ce que vous avez aussi des ONG de défense des droits de l'homme?
Oui, à Calémy, il y a des ONG de défense des droits de l'homme.
Mmh. Et quel regard portez-vous sur le travail qu'ils sont en train d'effectuer à Calémy?
Le travail est sans bien que louable dans tout pays qui se veut démocratique. Mmh. Et le travail des ONG des droits de l'homme est nécessaire. Mmh. La République démocratique du Congo, si nous appelons bien la République démocratique du Congo, donc nous supposons être des démocrates. Alors nous devons avoir des ONG qui militent pour la défense des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si un État n'a pas des organismes des droits de l'homme, ce n'est pas un bon État. Parce qu'un État a besoin d'être critiqué, a besoin de voir son action, comment est-ce qu'on est en train de progresser. Mmh. Dès lors que ces ONG sont là pour porter un regard sur le tas de lieux de notre nation, nous devons toujours les solliciter et encourager ce genre d'initiatives dans notre pays.
Mmh. Est-ce qu'au niveau de Calémy, il y a des actions que vous avez, par exemple, appréciées et qui ont apporté un plus dans votre société?
Oui, il y a une ONG comme ça, la voix de la minorité indigène, qui militait pour les indigènes. Alors, cette ONG, l'IPCN, fait de l'unité pour la promotion des pygmées, pour faire voir à la population que les pygmées aussi sont des gens qui nécessitent une certaine protection. Ils ont aussi les droits. Ce sont des gens d'initiative à envoyer au CNP Canada.
Oui, et après avoir fait leur dénonciation, après avoir montré que les pygmées ont aussi des droits, est-ce qu'il y a eu une amélioration des conditions de vie ou bien de l'appréciation qu'avait la société au regard des pygmées?
Oui, c'est un peu ça aussi le problème de mental de nous, les Congolais. Parce que vous savez, quelque chose qui a été longtemps dans le mental de nous, comme ça les pygmées n'étaient pas des gens. Alors, pour faire sortir cette idée dans le raisonnement de nous, les Congolais, c'est un peu dur et c'est un travail qu'il faut un peu travailler et pour essayer de faire comprendre aussi davantage. Mm-hmm. C'est pas un travail de 1 an ou de 2 ans, mais c'est un travail de plusieurs jours parce que c'était déjà gravé dans nos têtes que bon, ces gens-là n'avaient pas de droits, ces gens-là n'étaient pas du tout des hommes.
Merci, merci Salé pour votre participation à cette émission. Vous êtes à Calémie. Nous restons dans l'est de la RDC, mais un peu plus au nord de Calémie, au Maniema, où se trouve Walumbangi. Bonjour Walumbangi.
Bonjour, merci beaucoup. C'est Walumbangi, comme j'ai l'habitude de dire. C'est Walumbangi, parce que quand vous prononcez, vous parlez de Walumbangi.
Vraiment, on s'excuse parce que chacun a son accent, mais l'essentiel, c'est qu'on s'entende. Et qu'il faut aussi vous exprimer sur Radio Okapi. On n'est pas tous obligés d'avoir le même accent, mais on va essayer quand même de faire un effort pour prononcer votre nom comme vous le souhaitez, surtout selon vos origines. En fait, on voudrait aussi vous écouter. Que pensez-vous? Quel regard portez-vous sur le travail des activistes des droits de l'homme?
Oui, merci beaucoup. Je voulais signaler que justement, vraiment, au Maniema, les activistes des droits de l'homme sont là.
Mmh.
Les activistes sont là et il y a des actions qui sont visibles par rapport à la démocratie que nous les parlons dans notre pays. Mais ce que vous devez voir, nous sommes obligés d'encourager d'une part les activistes des droits de l'homme. Et d'autre part, nous sommes aussi obligés d'encourager aussi notre gouvernement.
Mmh.
Mais ce que nous devons savoir est que, par exemple, au Maniema, il y a des radios locales. Par exemple, il y a RHBM, c'est la radio des Hakis et Binadam. Quand on dit Hakis et Binadam, c'est les droits de l'homme du malade. Il y a aussi une autre radio appelée Radio RTNC Mali.
Mmh.
Vous allez remarquer que toutes les émissions qui sont animées, surtout en majorité, c'est pour susciter un peu la population à connaître leurs droits par rapport aux réalités.
Mmh.
Donc ce sont des actions quand même qui sont visibles au niveau des nations.
Mmh.
Et malgré cela, nous voulons aussi susciter de la part du gouvernement que les activistes des droits de l'homme se sentent libres pour qu'ils ne soient pas vraiment assignés d'une part ou d'autre part ou bien freinés dans leur travail d'abattu.
Oui. Okay. Oui, mais aussi on voudrait savoir quel a été l'impact dans la société, le fait qu'il y ait ces radios qui sont en train de sensibiliser les gens sur leurs droits, de faire connaître les droits, de promouvoir ces droits. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la société?
Oui, l'impact est visible. Par exemple, je vous parle de la province du Maniema. D'ici les 12, il y a les élections pour le gouverneur de province.
Mm-hmm.
Mais vous allez remarquer que par rapport aux critères, par rapport à quoi, ce sont les émissions qui sont animées par ces radios-là qui mm-hmm. montrent à la population, à nos députés provinciaux, pour qu'ils puissent faire un choix qui sont vraiment aimé par la population du Maniema.
En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. En fait, en gros, vous dites que c'est vraiment nécessaire le travail des défenseurs des droits de l'homme. Vous voulez ajouter quelque chose, on vous
dit. Oui, j'ai été à augmenter. Je voulais poser la question à notre activiste des droits de l'homme, donc celui qui est venu du ministère de la Justice. Je voulais savoir quelles sont les mesures qui sont prises par ce ministère pour protéger quand même ces activités de droits de l'homme qui sont sur le terrain pour la démocratie.
Merci.
Donc voilà, mais je voudrais savoir quelles sont les mesures qui sont...
Donc vous voulez savoir quelles sont les mesures qui sont prises par notamment le gouvernement pour pouvoir protéger en fait les activistes de droits de l'homme. Merci beaucoup pour votre participation. D'ailleurs, nous saluons notre invité. Bonjour, Maître Jocelyn Lucot. Vous venez à peine d'arriver. Nous sommes déjà en pleine émission. Il y a déjà une série d'auditeurs qui sont... une série qui est passée. Nous avons suivi 2 auditeurs, Salé et Walumbangi. Et tout juste après, nous allons suivre d'autres auditeurs qui sont au bout du fil, qui veulent vraiment participer à cette émission.
Bonjour Marie-Chantal. Merci beaucoup évidemment pour cette émission. Encore une fois, un exercice démocratique où les dirigeants qui assument les responsabilités publiques doivent affronter la population pour donner des précisions, notamment par rapport à l'évolution de la nation et à leurs préoccupations.
Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'homme. Nous allons d'abord le temps de pouvoir voir certains auditeurs. Nous allons revenir tout juste à vous, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons dans ce studio. Maître Ruffin, vous avez peut-être déjà suivi ce que pensent nos auditeurs par rapport à cette situation, surtout au travail des défenseurs de droits de l'homme. Ici en RDC, nous avons plusieurs structures, des ONG de défense des droits de l'homme. Nous avons même des ONG internationales qui ont pour rôle, qui ont pour objectif de défendre, de promouvoir les droits de l'homme ici en RDC. Et souvent, l'objectif final, c'est l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des groupes qui sont défavorisés ou si leurs droits fondamentaux sont vraiment violés. Donc aujourd'hui, vous êtes porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. Comment est-ce que vous appréciez le travail de ces structures ici en RDC?
Merci beaucoup, madame, parce que d'abord, nous avons tous les ministères des Droits Humains. Donc, en dehors du ministère de la Justice, on a fusionné les ministères pour que ça soit un seul. Et donc, pour un objectif gouvernemental, on est par rapport à cette voie, c'est parce que le gouvernement voulait qu'il y ait une efficacité dans l'action. Eh bien, parce que nous avons maintenant le droit humain comme une partie du ministère de la Justice, nous apprécions une valeur particulière la contribution, n'est-ce pas, des activités des droits de l'homme. Moi-même, je suis l'émanation. Donc, si je suis au ministère de la Justice, c'est principalement parce que j'ai commencé ma
carrière comme activiste.
Alors, mais cette activité que nous avons gérée, vous savez pourquoi on a commencé. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, avec les statistiques que nous avons, en Afrique, le pays qui a le plus grand nombre d'activistes des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement la Deuxième République a laissé s'effondrer la justice et les services de l'ordre. Alors lorsque ces dés-là s'effondrent, le salut de la population se retrouve éparpillé et notamment confié entre les mains des activistes. Or, les activistes n'ont rien d'autre que de faire des rapports, que de crier,
de dénoncer.
De porter la voix, de faire la plaidoyer, et ils n'ont pas la solution. Donc, c'est pourquoi, entre autres, émanation des droits de l'homme, je me retrouve au ministère pour que je donne ma contribution par rapport à la situation. Ça veut dire quoi en définitive? C'est que le ministère a pris l'option que la meilleure prise en charge des droits de l'homme, c'est le renforcement de la justice. Chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme, la justice doit répondre comme partout dans le monde. En France, il n'y a pas autant d'ONG de droits de l'homme. D'ailleurs, vous n'entendez même pas de rapport parce que la justice, la police...
Il y en a. Mais pourquoi alors? Parce que pourquoi autant? Vous avez dit c'est parce qu'à un moment, il y a eu un certain, si on peut appeler ça comme ça, laisser aller, il n'y avait pas un effondrement, comme vous-même vous l'avez dit. Mais vous imaginez, il y a autant, mais on a l'impression que le nombre est en train de s'accroître davantage. Pourquoi?
Parce que, évidemment...
Donc il n'y a pas d'effort dans la lutte contre l'impunité.
Non, nous l'avons dit depuis un certain temps, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ, sinon dans mon nom, il y aura l'argent au cas de la fête. Parce que finalement, les Congolais se sont vite rendus compte que dans l'activité en défense des droits de l'homme, il y a l'argent, il y a la vie. Ce n'est plus quelque chose qu'une vocation toute simple. C'est comme ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ce qu'il faut, les couvents, les petits séminaires et consorts. C'est d'abord une vocation. Mais finalement, lorsqu'il découvre que derrière la vocation, il y a des faits lucratifs. C'est autant que les églises prolifèrent, autant les activités des droits de l'homme, parce que finalement, il y a la vie, il y a l'argent.
Bon, de cette façon, nous aurons aussi des activistes des droits de l'homme. Là, c'est une accusation que vous êtes en train de porter contre eux. Vous dites que la plupart, bon, certaines ONG mais nous allons quand même écouter ces personnes qui sont au bout du fil, qui voudraient aussi s'exprimer par rapport à ce sujet.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Chantal Kanimbu.
Bonjour, M. Chantal.
Oui, vous êtes présidente du symposium sur la réforme de la société civile, mais vous êtes aussi présidente de l'UNPC, l'Union de la presse congolaise, mais on a l'Union nationale. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui des droits de l'homme. Il y a plusieurs défenseurs des droits de l'homme en RDC, leur action dans la société, et vous, en tant que présidente de plusieurs structures, parce qu'il y a société civile, au sein de la société civile, il y a aussi des ONG de défense de droits de l'homme. Quel regard vous vous portez sur l'action de ces défenseurs des droits de l'homme?
Ben, écoutez, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais dire au porte-parole avant tout du ministère de la Justice que s'il y a autant d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a un besoin qui se ressent au niveau de la population pour défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup d'activistes qui s'y engagent par vocation, peut-être c'est vrai, il a raison, il y en a aussi qui s'y engagent pour d'autres raisons, mais je pense qu'il faudrait plutôt regarder ça de manière positive et considérer que s'il y a autant d'organisations de défense des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce que les citoyens sentent qu'ils ont besoin d'être protégés, parce que peut-être il y a une défaillance du côté du service public, du service de l'État. C'est pourquoi il y a autant d'organisations de défense des droits de l'homme. Et donc, moi, je pense que c'est ça la démocratie, justement. Toutes ces organisations existent dans la société civile, font partie de la société civile, parce que la société civile s'organise en dehors des pouvoirs de l'État, de manière à combler certaines défaillances qui existent au niveau de l'État. Et ces organisations font un service public qui est important parce qu'ils font également un travail d'éducation civique, un travail d'éducation citoyenne pour que chaque Congolais puisse connaître ses droits et savoir que si mon droit est violé, je peux aller devant tel ou tel organisme public ou tel organisme privé pour pouvoir obtenir gain de cause et obtenir justice par rapport aux droits qui ont été violés.
Mais il y a aussi, par exemple, il y a eu un auditeur qui a posé la question pour savoir, le porte-parole du ministre pourra donner un complément par rapport à cela, mais on voudrait savoir, au sein de la société civile, au sein de ces ONG de défense des droits de l'homme, il voudrait savoir quelles sont les mesures pour protéger, en fait, ces activistes de droits de l'homme, au sein d'ailleurs de la corporation, au sein des ONG, quelles sont les mesures que eux, d'abord, à leur niveau, sont en train d'entreprendre pour pouvoir protéger ces personnes qui sont souvent exposées.
Non, madame, écoutez, ce sont les pouvoirs publics qui ont pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Les activistes des droits de l'homme, c'est vrai, ils peuvent prendre certaines précautions pour se protéger, mais cette mission revient d'abord au pouvoir public. Nous-mêmes, dans la corporation des journalistes, vous le savez, madame, nous avons été victimes. Depuis 2005, il y a beaucoup de journalistes qui ont été assassinés. Nous avons organisé des manifestations justement pour interpeller les pouvoirs publics dans leur rôle régalien, le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Bon, en 2005, il y a eu un assassinat, 2006, chaque année pratiquement. Mais nous, en tant qu'organisation professionnelle des médias, nous n'avons pas le pouvoir, tout autant comme les activistes des droits humains, nous n'avons pas le pouvoir d'organiser la sécurité de notre travail et de l'activisme de ceux qui défendent les droits de l'homme. Il appartient au pouvoir public de pouvoir jouer ce rôle qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et donc, Marie-Chantal, vraiment, franchement, je suis désolée. Je crois que cette mission revient d'abord au pouvoir public d'assurer la sécurité des biens et des personnes, pas seulement des activistes des droits de l'homme, pas seulement des journalistes, mais de tout le monde, parce qu'ils ont tous les moyens pour le faire, ils ont les services de sécurité, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont tous les instruments nécessaires pour pouvoir assurer cette sécurité des personnes et des biens.
Merci beaucoup pour votre intervention au cours de cette émission de parole aux auditeurs. Vous avez trouvé, vous avez constaté qu'en tout cas, les actions des ONG de défense des droits de l'homme sont vraiment nécessaires dans cette société. Nous allons aussi écouter Jacques Kiakamanga. Bonjour.
Chantal.
Oui, Jacques, on vous écoute.
Oui, d'accord. Oui. Je vais très vite souligner que nous sommes un État qui se veut démocratique, un État qui se veut de droit. Dans un État de droit, il y a l'exigence du respect de la loi. Et dans, il n'y a pas de véritable démocratie sans le respect et la promotion des droits de l'homme.
Mm-hmm.
Mais ce qui paraît inquiétant ici, c'est que la population elle-même ignore ce qu'on peut entendre par les droits de l'homme. Sauf que certains services chargés de faire respecter les droits humains ne connaissent pas non plus. Donc, il faudrait d'abord commencer par signifier à la population l'expression droits de l'homme. Quels sont les droits de l'homme dont il est question? Sont consacrés par quelle loi? Tout ça. Bon, en plus, lorsqu'on prend même le petit temps d'expliquer, de dialoguer entre camarades sur le droit de l'homme, peut-être pareille notion sont très gênantes, hein, et elles gênent apparemment les destinataires. Et ici, je peux prendre un cas concret. Sur l'axe routier Kananga-Chikapa, il y a des policiers là commis et des militaires commis au pont Moulua, au pont Miaou, qui exigent pour chaque passage, pour le passage donc, ils exigent le versement de 200 francs.
Oui.
Cet argent, vous ne passez pas.
Oui. S'il vous plaît, Jacques, c'est vrai qu'il y a des violations de droits de l'homme, vous avez donné même des exemples, mais dites-nous au niveau de Kananga, comment appréciez-vous le travail des défenseurs des droits de l'homme? Quelle est l'influence dans la société? C'est vraiment ça notre préoccupation, Jacques.
Oui, d'accord, madame. Bon, ce qui est triste, c'est que ici nous entendons moins parler de l'action des droits de l'homme, pour la défense et la promotion des droits de l'homme ici à Kananga. Il y a même des émissions rares parmi les chaînes locales que nous avons ici qui diffusent ou bien qui programment des pareilles émissions pour voir, pour pouvoir donc promouvoir et faire pour faire la connaissance du public les droits de l'homme.
Mmh.
Et les quelques cas qu'on a, peut-être de manière très isolée, si on dénonce qu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme, c'est qu'on porte cela à la connaissance des autorités locales, en tout cas, elle demeure indifférente, et cela ne fait que s'améliorer. Et je voudrais plutôt que cette action de défense des droits de l'homme ne soit pas seulement menée par des organismes non gouvernementaux, mais que ça soit aussi mené par l'État. L'État en tant que garant de la nation, l'État en tant que garant des droits de l'homme, l'État en tant que pouvoir souverain ayant dans ses attributions le rôle régalien, comme l'a dit le précédent intervenant,
pour
pouvoir donc améliorer et promouvoir les droits humains dans notre province.
Merci beaucoup, Jacques, pour votre intervention. Nous prenons aussi Robert Ilunga. Il est activiste des droits de l'homme. Il fait partie de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons du regard que portent les auditeurs et vous-même en tant qu'activiste des droits de l'homme sur le travail que vous êtes en train de faire ici en RDC. Vous avez milité pendant longtemps pour la promotion des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une influence dans l'amélioration du vécu quotidien des Congolais?
Je crois que la situation des droits de l'homme dans notre pays, nous l'avons toujours dit, la situation des droits de l'homme n'est pas bonne. Bon, quand chaque fois les jeunes parlent de l'homme, il faut un peu alerter l'opinion publique et alerter les autorités sur les exactions dont la population est victime. Pour continuer, et vraiment avec le cas, c'est le fait que, vous voyez, l'autorité semble être indifférente à la situation. Et souvent, quand vous vivez dans le poste même, par exemple de la police, parce que les deux institutions que je peux dénoncer, c'est la mort et la police nationale congolaise. Là, vraiment, il y a des droits être petits dits. Disons, quand vous voyez que quand il y a une situation de violation de droits de l'homme qui concerne les institutions, automatiquement, on vous prend comme un suspect. Parfois même, vous pouvez être retenu comme ça, vous allez donner une information, mais comme l'information touche directement à l'institution auquel vous allez dénoncer, on vous retient, et on transforme son nom comme quelqu'un qui est en train de toucher à la faculté de l'État, et ainsi de suite, pour une affaire de la prison. Moi, j'en ai tellement payé plusieurs fois comme ça, et c'est ça la grande situation. Si l'autorité prend conscience, que nous prenons une position, disons, instituée et de droit, la première des choses, nous nous disons, nous sommes des conseillers bénévoles, nous, les défenseurs du roi l'homme. Nous sommes des conseillers bénévoles et actifs, nous sommes de la police, du conseil de la police, quelque chose que ce soit de la mort. Si ils préfèrent à nous, pour avoir des informations rares sur certaines situations, et je crois qu'il y a des choses qui peuvent améliorer. Donc, comme tout le monde qui sont responsables sont impliqués dans les abus et les violations de l'homme, je vois que le document peut être rectifié. C'est comme ça que l'on peut demander à le numéro 1 du pays, vraiment, de faire un effort pour rencontrer les ONG directement. Parce que les ONG trouvent une barrière pour rencontrer. Nous avons des choses que nous devons partager avec nous, c'est pas l'ALRP. C'est sûr, vous voyez, une tête, c'est pour aller quelque part. Parce que nous, quand nous allons, on peut nous crier, on n'a pas d'armes, on n'a pas quoi, on a que la bouche pour parler la tête qui est bonne. Regardez, il y a cette situation.
Mais entre-temps, Robert, vous pensez que quand même les actions des ONG des droits de l'homme est vraiment, et ça peut aider à pouvoir développer la société.
Tout à fait, les droits de l'homme n'est pas respecté, mais peut être développé. C'est la base même. Là, je peux prendre un exemple d'un simple paysan. Quelqu'un soit un paysan qui est dans la brousse, il a fait son champ, mais si son champ là, il faut qu'il y ait des gens qui viennent cueillir là chez lui, sans même qu'ils réclamer, et la personne ne trouve pas son compte, on voit qu'il n'y aura pas de développement, afin de prendre la personne peut se décourager. Prenons l'exemple des gens qui veulent peut-être aller vendre. Je prends l'exemple de faire une manenga ici à Kinshasa, 42 km. Pour quitter une manenga, venir à Kinshasa, il y a des barrières, des policiers et des militaires. Ils appellent la douane. Il faut payer la douane. Bon, la population a besoin quand même parfois des petits sujets, parfois des levées. Mais malheureusement, ils vont et pour le faire, aller vendre ça dans le sac, vous ne saurez pas le faire de rentrer en cours de route et il n'y a pas d'intérêt. Ça, on a dénoncé plusieurs fois. Nous n'avons jamais touché, disons, à la sécurité de l'État. Nous attaquons uniquement les personnes qui cherchent à salir l'État. Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. L'État est en train de se justifier de la première situation, mais qui concerne toute la nation. Y compris les choses de l'État, ça les concerne. Alors que c'est un autre individu, qui sont organisés pour salir. Et donc, on va reconnaître cela pour dire que ce sont les chanteurs de l'homme qui sont en train d'étendre le pays. Ce sont ceux qui vendent le pays.
Merci. Merci, Robert, pour votre intervention. Vous regrettez que malgré les dénonciations, il n'y a pas vraiment de changement. Nous allons à Ouvira, c'est au sud de Kivu, se trouve Séraphin. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Marie-Chantal.
Séraphin, on vous écoute.
Merci de l'opportunité que vous m'offrez, mais avant d'abord d'entamer le vif du sujet, permettez-moi aussi, comme c'est un sujet qui touche un peu le droit de l'homme, permettez-moi aussi de souhaiter nécessaire condoléances aux activités du droit de l'homme pour la mort de M. Robert Schubert. Alors, personnellement, je pense que le travail bâti par ces activités du droit de l'homme est d'abord très louable et qui rejoint même l'aspiration des peuples congolais que nous sommes. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui que les activistes des droits de l'homme sont devenus la proie même de nos autorités, parce qu'ils dénoncent certains mal qui rangent la société congolaise. Prenons juste un exemple, et à titre d'exemple, des jeunes droits de l'homme, tels que Human Rights Watch, la BSV et la GADO. Lorsque ces jeunes gens dénoncent le dysfonctionnement de la justice congolaise, la réputation illégale de ressortissants de l'Équateur qui avaient travaillé à côté du fait Maréchal Mobutu et de Jean-Pierre Bemba. En nous, tous les Congolais, qui ignorent qu'aujourd'hui nous avons une justice à double vitesse, qui ignore ça? Personne. Lorsque cette justice arrête celui qui a l'immunité parlementaire, et lorsque le général de la police qui est cité par les étudiants de Claudel Soudoua, c'est vraiment aucune immunité parlementaire, ou aucune immunité, c'est vraiment. Mais jusqu'à présent, ils m'ont pas même arrêté, ils m'ont même pas inquiété. On veut juste camoufler son arrestation pour que.
Par rapport à cela, il faudrait dire que les enquêtes sont en cours. Il sera un peu difficile de condamner qui que ce soit parce que chacun de nous jouit de la présomption d'innocence. Mais au niveau d'Ouvira, dites-nous un peu les actions menées par les défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous avez trouvé que ça a eu une influence positive sur la société? Allô? S'il vous plaît, Séraphin.
On voudrait
un peu savoir à Ouvira, est-ce que vous pensez que les actions des défenseurs des droits de l'homme a eu une influence positive dans la société?
Oui, tout à fait. Moi, personnellement, qui vous parle d'abord, je suis d'un parti politique de l'opposition. J'ai été à un certain temps là, l'emploi même de certains services pour la sécurité de notre territoire. Mais nous, quand on fait le dénoncé de droits de l'homme local dans notre territoire, c'est qu'il dénonçait mon arrestation. Chaque fois, il dénonçait mon arrestation. Mais vous allez bien mourir. Je vais mourir, mais grâce à ce niveau de droit de l'homme qui sauve ma plaidoirie à tout moment, malgré que je serais sorti quelque chose de bien, ce niveau de droit de l'homme. Il y a un impact sérieux sur le travail de ce niveau de défense des droits de l'homme.
Merci Séraphin pour votre intervention. À partir d'Ouvira dans le sud, qui vous nous prenons le dernier auditeur de cette série, Mayobo, il est à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour madame, je fais un peu une rectification. Je m'appelle
Mayoko.
Mayobo.
Oui, on s'excuse. Mayoko, dites-nous un peu comment, quel regard portez-vous sur le travail des défenseurs des droits de l'homme à Kikwit.
Ok, merci. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi ainsi que tous mes frères de Kikwit. Ok, moi je vais réagir à cette façon. J'apprécie le travail que font les archivistes ou les défenseurs des droits de l'homme. Mais ce que je déplore, ce gouvernement n'arrive pas à protéger ces défenseurs des droits de l'homme.
Mm-hmm.
Voyez comme ce qui vient de passer là, mon papa qu'on a tué. Donc, malgré ça, les défenseurs des droits de l'homme font tout pour que la vérité soit triomphée. C'est bien que les enquêtes qui constatent que cela soit standard.
En tout cas, Mayoko, vraiment, la ligne n'est pas du tout bonne, hein, mais en gros, on a compris que vraiment, vous soutenez les actions des défenseurs de droits de l'homme. Nous allons donner la parole à notre invité, Maître Ruffin Louco. Vous avez suivi nos auditeurs, ce qu'ils pensent du travail abattu par le défenseur des droits de l'homme. On parle de dénonciation, mais pas de changement, de la sécurité même des défenseurs de droits de l'homme, et aussi que souvent, s'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il y a des autorités qui sont impliquées, même dans la violation de certaines violations des droits de l'homme. Alors, ils pensent que c'est ainsi que c'est un peu difficile qu'il y ait un changement. Quelle est votre réaction?
Merci, madame, pour toutes ces réactions qui renseignent davantage combien notre population est très préoccupée par le respect de ses droits, notamment les droits fondamentaux qu'on appelle droits humains. Nous saluons ici très rapidement le travail que fait l'un des correspondants à qui vous avez tendu le micro, Ruberi Lunga, activiste. Nous saluons également Mme Chantal Kanimbo, cette grande dame et servante de la République, pour son rôle dans la société civile. Je crois que c'est parmi des exemples importants de défense des droits de l'homme, une carrière aussi énorme. Alors nous voulions préciser, notamment, de se contribuer à leur compréhension, que nous allons célébrer 50 ans d'indépendance et notre pays n'a qu'environ 2500 magistrats en tout, civils et militaires. Et pendant donc 50 ans. Et nous avons décidé de désigner, recruter 2000 magistrats dans 2 ans. Cette année 1000, l'autre année 1000. Non, 2010-2011. Ça veut dire quoi? C'est parce que nos populations n'ont pas de magistrats. Celui d'Ouvira qui se plaît que non, tel service de sécurité l'a malmené pour ceci, cela. C'est pourquoi le ministre de la Justice et le gouvernement se sont engagés dans beaucoup trop de réformes.
Nous avons un patrimoine, un héritage de la Deuxième République qui ne permet pas un héritage de textes, de lois qui bloquent cette histoire d'immunité. On parle de député. Nous le voyons deux fois. Hein. Nous nous amoquons parce que les immunités ne permettent pas à la justice de fonctionner. C'est vrai, la justice va dire qu'est-ce qu'on reproche au député qui est poursuivi. Mais apparemment, les faits ne sont pas famés. Et c'est dommage que des gens qui ont des immunités puissent être reprochés des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous investissons dans la justice pour que les ONG des droits de l'homme soient moins sollicités par notre population, au lieu d'aller à... Parce que madame,
peut-être redonner conscience en fait à cette
population. À la population, évidemment, parce que à l'Étori, vous aviez dénoncé ça, vos radios, vos médias, notamment Radio Capri, que nos populations, à l'Étori, allaient à la Monique pour déposer des plaintes. C'est ridicule.
C'est une réalité.
Mais ridicule de voir nos populations aller, plutôt que de se plaindre devant la police, devant les services, devant la justice, pas manque de confiance, parce que notre justice n'était pas de proximité. À l'Italie, nous n'avions qu'environ 4 à 5 qui ne dépassaient pas ces magistrats pour tout un district. C'est important. Donc, la promiscuité des magistrats, la présence dans chaque territoire des gens de la justice,
en définitive, solution.
Ce sont les consommateurs, c'est le pouvoir public, ce sont les pouvoirs publics qui sont les consommateurs des droits de l'homme. Toutes ces dénonciations là vont où? C'est vrai, les droits de l'homme. Par exemple, lorsqu'on dit barrière de la police, au lieu d'aller dans une ONG se plaindre, vous allez à l'auditorat pour arrêter tous ces policiers qui font des barrières sans autorisation. L'auditorat militaire est là pour ça. Donc, le ministre de la Justice et des Droits Humains, et le gouvernement a décidé que la meilleure réponse aux violations des droits de l'homme, ce n'est pas la multiplication des rapports. C'est-à-dire, c'est l'action, et notamment cette action sur la justice. Et ce que nous sommes en train de faire, que les gens ne soient pas, oh non, il y a une loi qui va réformer les magistrats. Le gouvernement veut que chez les magistrats aussi, il y a des sanctions. Lorsqu'un magistrat a fait 6 mois, nous avons reçu une plainte ici de quelqu'un qui a déposé sa plainte au tribunal en 2001, et jusqu'en 2007, on n'avait jamais prononcé son jugement. 2001 à 2007. Qu'un magistrat comme ça soit sanctionné, mais le patrimoine actuel, le patrimoine législatif actuel, ne permet pas les sanctions à ce côté-là. Donc, il y aura beaucoup trop de réformes pour que nous puissions rendre la justice.
Mais ça prend combien de temps? Parce qu'en fait, on en a besoin.
Madame.
Et puis aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est lorsqu'on apprend comment se finalisent les procès. Parce qu'on a l'impression que les procès, pour la plupart, qui sont assez importants, qui sont médiatisés, pour des personnes assez importantes, se terminent souvent en queue de poisson. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là?
Madame, d'abord, il faut que vous puissiez rompre également, vous aussi, la presse, avec la paix et l'indifférence. Le ministre de la Justice a demandé que désormais la presse doit suivre les procès. Parce qu'il y a longtemps,
nous
on intimidait la presse qu'elle ne pouvait pas. Les audiences étant publiques, la presse doit être là pour dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, quel témoin a dit quoi, et l'autre personne a dit quoi.
C'est que
la presse doit suivre les procès. Quelle façon? Je vais parler des procès qui se sont déroulés. En tout cas, des procès publics. Le procès de l'Indien qui a été attrapé avec les diamants, il a été condamné, il est à Makala. D'ici le mois de juillet ici, sa peine va s'épuiser, on va vendre les diamants, et lui doit payer à la République les dommages et intérêts qu'on l'a condamné. Et notre procès public, vous voulez, le procès qui a déjà commencé, de Pité, il y a eu une exception de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle est entrée, des statuts là-dessus. Donc je peux donner un certain nombre de
choses. On n'a pas l'impression que dans des cas rares, souvent, on n'a pas vraiment la totalité des procès.
Oui, évidemment, parce que la totalité, l'opinion l'aura comment lorsque la presse n'a pas fait l'écho.
Lorsque la banque a abandonné, vous relancez la balle à la presse, autant il n'y a pas la de procès, quand on n'arrive pas, les audiences se passent pendant longtemps, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc,
la presse,
après tout, de toute façon, vous avez aussi une cellule de communication et vous êtes là.
La presse, des droits, la presse. C'est elle qui est le porte-parole de la population en ce qui concerne les échos de tous ceux qui...
Revenons pour la protection en fait des défenseurs des droits de l'homme. C'est une question qui est assez épineuse parce qu'il y a plusieurs activistes qui sont assassinés, décédés, et jusqu'à présent on n'a pas encore eu gain de compte.
Pour ne pas terminer.
Je vous dis
qu'il y a en train de traiter pour protéger les activistes des droits de l'homme. D'abord, dans cet effondrement, dans cette déconstitution de l'État, dit à la guerre, dit à l'héritage du maréchal ou de la Deuxième République, eh bien, ils sont devenus les sentinelles ou la sentinelle de la République en ce moment même. Le respect du palais, ce sont des acquis du droit de l'homme. Alors, il y a au mois de mai ici, nous avons installé au ministère de la Justice les comités des liaisons nationales des droits de l'homme. Et ce comité aura un bureau national et des bureaux provinciaux. Et nous étions ici avec. Nous avons été troublés de son assassinat, nous étions ici avec lui, parce qu'il était parmi les pressentis, être éventuellement le président de cet organisme. Éventuellement, ou parmi les décideurs ou les organes décisifs de cet organe, n'est-ce pas, des droits, national des droits de l'homme. Pour que dans chaque province, il y ait une représentation, notamment pour une alerte rapide, qui est dans la connexion avec tous ceux qui sont sur le terrain. Et le quartier général en province et le quartier général national, il y a un organe par lequel ils s'expriment tous. Ils alertent l'autorité par rapport, si on peut dire, si on peut dire par exemple, il y a eu un rendez-vous par exemple suspect. Si on avait alerté un organe national, on aurait déjoué éventuellement tout cela. Donc, c'est important que tous les activistes sachent que leur protection, c'est avant tout la police. Hélas, c'est la police qui protège tout le monde et l'armée. Évidemment aussi, les autres institutions, notamment la justice, lorsque son droit est violé. C'est pourquoi, ici, en ce qui concerne le drame de cet assassinat, eh bien, la justice, qui a déjà commencé, va nous dire qu'est-ce qui s'est passé et les responsables seront traduits. Et vous, la presse, vous allez également donner de l'écho par rapport au procès qui aura lieu vis-à-vis de la mémoire et de l'importance de celui que nous avons fait.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Gaspard.
Oui, bonjour.
Oui, vous êtes à Paris, vous êtes président de l'Union du Congo, c'est une structure de promotion et de défense de droits de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons du regard que portent les auditeurs sur le travail des défenseurs de droits de l'homme. Quel est votre regard de Paris?
En fait, je suis Gaspard Hubert Lonsi-Gongo, et Gaspard, c'est mon prénom. Je viens d'entendre ce qui vient d'être dit, hein. C'est bien beau tout ça. Sauf que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire SPA, les crimes commis par le sommet même de la police qui est censé protéger la population.
Il dit encore de la présomption d'innocence, hein, Gaspard.
Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a présomption d'innocence, mais sauf que ce n'est pas d'autres personnes qu'on a qui sont suspectées, si ce n'est que les responsables de la police. Donc il y a déjà un faisceau d'indices qui montre que les choses se passent de ce côté-là. Mais par rapport à... Il y a ma fille aussi qui... Pas de l'autre côté. Par rapport au travail même, à la protection même de la société civile, je pense que les vrais problèmes ne sont pas forcément les mesures qu'on essaie de prendre précipitamment. Ce gouvernement est là depuis très très longtemps. Et comme par hasard, il n'y a que maintenant qu'on est en train de prendre ces mesures. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Sauf que le vrai problème vient du manque de séparation réelle des pouvoirs entre les différentes institutions. Comment voulez-vous que des gens qui sont censés être des hommes organes, qui dirigeantent tout à partir de certaines officines, puissent respecter la chose publique ou faire respecter les droits fondamentaux? Tant qu'on ne réglera pas cette histoire-là, tout ce qu'on dira, ce sera de la parlotte, on mettra la charrie avant le feu. Donc ce qu'on demande à ce gouvernement-là, c'est d'avoir le courage de faire en sorte que chaque institution puisse fonctionner indépendamment pour que dans un pays où il y a quasiment faillite de l'État, où l'opposition ne joue plus son rôle de contre-pouvoir, que les sociétés civiles sérieusement qui est là servent de garde-fou à titre provisoire, parce que nous voulons que la justice revienne entre les mains de ceux qui sont censés le faire appliquer, pour que la société civile ne joue aucun rôle secondaire et non pas ne monte au créneau comme ça tout le temps avec tout ce que cela comporte comme un risque.
En tout cas, merci beaucoup Gaspard Lofi-Coco. Vous êtes à Paris, vous êtes président d'une structure appelée Union du Congo. Merci pour votre intervention au cours de cette émission. Parole aux auditeurs. Bonjour Peter. Peter?
Bonjour.
Et vous êtes à Bounia, et quel regard portez-vous sur le travail des défenseurs des droits de l'homme ici en RDC?
Oui, je voulais d'abord commencer à donner mes condoléances à tous les activistes des droits de l'homme, à mémoire de CBA. Et ces organisations vraiment ont raison d'exister. est-ce que vous, dans cette partie où vous connaissez vous-même ce qui s'est passé, les tueries, les assassinats, les meurtres, vraiment, ils ont beaucoup de choses à faire ici au niveau de Bounia et surtout à Missouri. Est-ce que ce sont ces organisations qui doivent sensibiliser la population pour connaître leurs droits et savoir où aller se plaindre lorsque ces droits sont gelés?
Et vous pensez qu'ils sont assez actifs et que c'est assez nécessaire pour notre société qu'on ait de plus en plus des organisations pareilles?
Oui, vraiment, ils sont vraiment nécessaires, surtout dans notre côté où nous existons. Et c'est pour cela même, ce que nous regrettons, c'est lorsque il y a des menaces, des tueries, des assassinats, ce que nous dénonçons nous.
Merci beaucoup, Peter. Vous êtes à Bounia, dans la province orientale. Bonjour, monsieur Chris.
Bonjour, madame.
Oui, vous faites partie d'Amnesty International, vous êtes directeur de tous les réseaux des droits de l'homme pour l'Afrique.
Ah non, madame, je suis directeur d'IRAC. Hein, et IRAC, c'est le réseau des ONG européennes qui travaillent au Afrique centrale. Nous travaillons ensemble avec Amnesty International, mais c'est une autre structure.
Merci beaucoup pour cette précision. Vous intervenez à partir de Bruxelles. Dites-nous, vous connaissez quand même comment fonctionnent les ONG de défense des droits de l'homme ici en RDC. Comment appréciez-vous le travail qui est fait sur le terrain?
Bon, le travail qui est fait sur le terrain, je pense qu'il est nécessaire, il est précaire. Hein. Il faut de perdre un ami et un frère en solidaire chilien. Et donc, c'est non seulement pour sa famille, mais aussi pour la société en tant que telle, finalement pour tout le monde qui croit que c'est possible d'avoir, de construire un état de droit. Bon, c'est dramatique. Donc, et ça, c'est preuve du fait que c'est dangereux de travailler, ou que c'est précaire, disons, c'est très difficile de travailler, les gens, de droit de l'homme. Et d'ailleurs, nous sommes vraiment très inquiets parce que nous constatons une augmentation depuis de l'année 2009, disons, du nombre de meurtres, d'interdictions, d'arrestations arbitraires et de violations de droits de l'homme commis par l'encontre de journalistes et d'animateurs de notre société civile, et donc, y compris les défenseurs de droits de l'homme, et donc y compris nos frères étudiants.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour que au moins ces activistes puissent se sentir en pleine sécurité?
Bon, je pense qu'il doit y avoir une reconnaissance dans une démocratie, même si elle est embryonnaire, une reconnaissance du rôle de la société civile. Donc, en tant que instance constructive, mais autonome, qui fournit certaines critiques sur l'action des autorités. Hein, c'est quelque chose qui doit être reconnu par la partie d'une démocratie. Une fois qu'on est d'accord de ça, on doit aussi appliquer ce qui existe en termes de lignes directrices autour de la protection des journalistes et des droits de l'homme. Il y a beaucoup de documents qui ont été adoptés dans les Nations Unies au niveau de l'Union Européenne, mais qui malheureusement très peu mis en application, qui reste lettre morte dans les tiroirs, disons, n'est pas toujours appliqué.
Donc il y a des textes qui ne sont pas appliqués. Merci beaucoup, Monsieur Chris, pour votre intervention au cours de cette émission. Nous allons donner la parole à Marcel. Il est à Kisangani. Bonjour, Marcel.
Oui, bonjour, Madame Marie Chantal.
Marcel, on vous écoute.
Oui, ok. Merci, Madame. Moi, je voudrais juste vraiment encourager ces organisations non gouvernementales. Parce qu'aucune population de la République démocratique du Congo n'était restée indifférente à l'égard de ces organisations. Parce que ce sont ces organisations-là qui font à ce que la population soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. Mais chose malheureuse, c'est que au lieu que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse encourager ces organisations-là à bien travailler, c'est-à-dire à assurer et leur protection, et c'est ce même gouvernement qui devient indifférent à l'égard de ces organisations. Je m'explique, madame. Donc, vous imaginerez, lorsque un activiste ou un défenseur des droits de l'homme, mais malheureusement, les enquêtes n'aboutissent pas à leur fin, mais la plupart des cas, on constate que ce sont toujours les agents, soit de la police, soit le membre qui impose le gouvernement, qui sont suspectés dans ces différentes théories.
Oui, s'il vous plaît, Marcel, au-delà de ce que vous êtes en train de dire pour l'instant, mais le travail même des défenseurs de droits de l'homme au sein de votre société, est-ce que vous pensez qu'il y a un impact positif pour l'évolution, par exemple, de Kisangani, le développement de Kisangani?
Vraiment, madame, ces ONG travaillent vraiment, même ici à Kisangani, remarquons vraiment combien de fois que ces ONG travaillent, surtout lorsque les droits humains sont violés dans de différentes prisons ici au centre de la ville. Vraiment, ce défenseur se bat pour que les droits humains soient respectés parce que ces droits sont garantis même par la Constitution. Le 11e article, la 67e, vraiment, ce défenseur se bat. Et ce sont les organisations très capitales même pour la vie courante de la population.
Merci. Merci, Marcel. Vous intervenez à partir de Kisangani. On prend les derniers auditeurs de cette série avant qu'on ne puisse suivre ensemble notre flash d'information qui va intervenir dans en moins de 7 minutes. Bonjour, Achille.
Bonjour.
Activiste de droits de l'homme, ici à Kinshasa, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. J'arrive d'abord les condoléances à tous les activistes de droits de l'homme ici à Kinshasa. Merci, madame. Moi, je voulais intervenir juste parce que j'ai entendu parler de notre sécurité chez la police. Et non, c'est pas la police. Parce que derrière cette police-là, j'ose nos propres droits. Comme le défenseur des droits de l'homme ici à Kinshasa. Comme exemple, ici à Singapour, il a eu dernièrement le bouclage dans notre quartier. Et on a fait arrêter aussi les activistes des droits de l'homme. Si c'est présenté là-dedans, on rentre dans le quartier et on arrête aussi les activistes des droits de l'homme. Et ils ont aussi payé des amendes, ça veut savoir, puisque nous n'avons pas été, à côté d'eux. On nous a appelé, mais nous n'avons pas eu sur le téléphone.
Donc
c'est regrettable, madame.
Donc, Achille, vous déplorez que la police, au lieu de vous protéger, est en train de vous insécuriser, si on peut dire comme ça. Mais néanmoins, nous savons que la police est là pour protéger la population et les biens, les personnes et leurs biens. Mais entre-temps, dites-nous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, qu'est-ce que vous avez constaté dans votre société, le fait que vous ayez à pouvoir défendre ces droits, est-ce qu'il y a eu un changement dans
la société? Merci, madame. Personnellement, ici, personnellement, je suis peut-être encore dans Zingabon, et les activistes, nous travaillons. Il y a eu beaucoup de amis ici à Zingabon, et maintenant, nous voyons qu'il y a eu des changements.
Une diminution. En tout cas, merci beaucoup, Achille, pour votre participation à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Maître Ruffin Boucaud, vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice et des Droits Humains. Vous avez suivi encore une fois nos auditeurs, une réaction.
Oui, madame, celui de Kikui qui demandait quels sont les droits de l'homme en définitive. Évidemment, c'est nous allons davantage communiquer. Nous avons d'ailleurs, je crois, une première au ministère de la Justice d'avoir un conseil juridique et porte-parole. Il faut donc davantage nous entendre sur Okapi, chaque fois qu'Okapi aura besoin de nous pour que nous puissions communiquer notamment sur les droits de l'homme. Donc, quels sont les droits de l'homme? C'est vaste, c'est toute une forêt, donc il faut apprendre petit à petit, notamment par les activistes qui sont à côté d'eux. Mais s'agissant notamment, par exemple, de la police, malgré les habits, madame qui a eu raison de les répéter, malgré les habits qui peuvent être dans la police, c'est elle qui est chargée. Pas censée, qui est chargée de protéger la population et leurs biens. Elle et l'armée ensuite. Donc, nos services de sécurité et la police sont chargés dans certains mandats. Et nous voulons évidemment que ces rôles soient joués. Et chaque fois qu'il y a un habit, qu'on saisisse le régime qui est la justice militaire. Alors évidemment, il s'agit ça aussi, madame, de la situation de l'enquête. Il ne faut pas qu'on ait une fixation, que non, c'est telle, c'est telle. Lorsqu'on dit c'est telle avant l'enquête, cette enquête n'est plus indépendante.
Mm-hmm.
En matière d'enquête criminelle, on parle de pistes. On privilégie, on exploite les pistes. Et ce sont ces pistes que le parquet est en train d'exploiter. Et ces pistes vont aboutir à quelque chose, et c'est cette chose-là, entre guillemets, ou cette personne-là, s'ils sont nombreuses, une personne, si elle est une, qui vont, n'est-ce pas, répondre devant la justice. Donc on ne doit pas déjà, avec, évidemment, comme vous avez dit, la présomption d'innocence, qui est également un droit de l'homme, la présomption d'innocence, la population, nous tous, nous devons également respecter ça. C'est ça de la position de Gaspard qui est à Paris, qui dit que non, nous sommes dans un pays où il y a la faillite de l'État, rien ne fonctionne, l'opposition ne fonctionne pas. Non, au lieu de parler de la faillite de l'État, où l'opposition ne fonctionne pas, qu'il parle plutôt de la faillite des hommes, de la faillite de l'homme congolais. On vous l'a dit déjà plusieurs fois, le problème que nous avons, c'est est-ce que cette opposition-là, les hommes fonctionnent-ils normalement? Et donc, dans cet ensemble de réformes, il faut que les hommes se redressent.
Mais quand ils ont, par exemple, liberté, par exemple, publique, qui sont violés, de manifester, de s'exprimer, à ce moment-là, vous allez dire que ce sont les hommes qui ont un problème.
Non, ça veut dire, en ce qui concerne l'opposition, la lutte doit continuer.
La lutte doit continuer
pour qu'on respecte leurs droits politiques, notamment des manifestants comme ça. Parce que c'est une lutte politique. Évidemment, lorsque les droits des politiciens sont, les politiciens n'ont pas de juges naturels, comme on dit, les juges des politiciens, ils sont justiciables comme nous, chaque fois que leurs droits également sont violés, les ministères de la justice et en premier lieu, la justice elle-même est là pour eux également. C'est ainsi que vous avez dit, les avocats défendent devant la Cour suprême que non, le droit d'un député a été violé. Et c'est finalement la justice qui va trancher.
Nous allons revenir, hein, parce que si vous concluez maintenant, vous allez conclure à la fin de l'émission. Mais dans une minute, dites-nous un peu, il y a un auditeur, M. Chris, qui nous a appelé à partir de Bruxelles. Il a dit, en fait, il se charge en fait du réseau des défenseurs, des ONG de défense des droits de l'homme. Il a constaté qu'il n'y a pas une séparation nette entre les pouvoirs de l'État. Est-ce que vous pensez que cela aussi peut être une cause même de la violation des droits de l'homme?
C'est une vieille accusation. Nous avons hérité, nous avons été pendant 12 ans dans la confusion de tout. Nous étions tous des militants des partis d'État dès la naissance, d'ailleurs même dès la conception. Donc, nous savions un seul organe qui était le parti. Un père et nous tous, nous étions
dans le Parlement. Nous sommes dans un procès.
Et donc, une vieille agitation, nous voulons, évidemment, il y a déjà une constitution de 2006 qui a séparé les choses.
Bon, nous allons revenir à tout juste après le flash d'information qui va être. Nous poursuivons Parole aux auditeurs dans sa seconde partie. Et aujourd'hui, Parole aux auditeurs parle des droits de l'homme. Nous échangeons sur le travail des défenseurs des droits de l'homme, leur action et surtout l'impact de leur action dans la société. Souvent une question qui nous vient à l'esprit, à quoi sert le travail d'un activiste des droits de l'homme dans le milieu? Nous décortiquons cette question en lançant notre discussion sur une seconde interrogation à laquelle, chers auditeurs, vous avez déjà commencé à y répondre. Donnez votre avis, vos propositions, quel regard portez-vous sur le travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Et nous avons invité pour vous Maître Ruffin Louco, il est porte-parole du ministre de la Justice et des Droits humains. Il est dans ce studio et si vous voulez participer, vous avez deux possibilités bien sûr, soit nous appeler au 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Avant de donner la parole à Maître Ruffin Louco, parce qu'il est avec nous dans ce studio, nous allons écouter Adrien qui est à Kananga. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Marie-Chantal Lumba.
Oui, Adrien, dites-nous quel regard portez-vous sur le travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC?
Merci beaucoup. Je pense que avec la politisation de la société civile, les organismes des droits de l'homme jouent un rôle très 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 important. C'est vrai, ils sont vraiment abandonnés à leur triste sort. Ils ne sont pas du tout protégés. Ils sont comme ça, ils sont tracassés ça et là. Mais j'aimerais un peu soulever quelque chose vraiment de très important que mes précédents n'ont pas tiré beaucoup d'attention. Après mon constat, j'ai quand même l'honneur de circuler ça et là, donc la moitié de la RDC. Je me suis rendu compte que certaines zones G donc ONGD se comporte comme, peut-être c'est fort, hein, mais ça m'engage, se comporte comme le parti politique d'opposition. Je vous donne un exemple, je suis ici à Kananga, il y a de cela 3 mois déjà passé, l'autorité provinciale a instruit aux propriétaires des moulins qui se trouvent juste en face du grand marché de reculer à 15 mètres parce que c'est vraiment, ils sont tout au long donc, du rail, ça fait trop de dangers, puis trop de morts, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces propriétaires-là continuent toujours à s'entêter. Et là, moi je pense que les organismes des droits de l'homme pouvaient intervenir pour faire comprendre maintenant à, donc, aux propriétaires de moulins. Ils attendent maintenant lorsque le pouvoir public pourra prendre maintenant des mesures dragoniennes pour envoyer des bulldozers pour détruire ça. Il faut maintenant parler que non, voilà, il y a tracasserie à Kananga, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, madame, je veux savoir par là, comment est-ce que le pouvoir public pourra considérer ces zones-là. Donc, il faudra croire que ce sont ses ennemis, ce sont donc le parti politique d'opposition qui s'oppose devant n'importe quoi. C'est l'unique point. Moi, je voudrais un peu appeler les organismes des droits de l'homme, d'aider aussi la population face au pouvoir public. Lorsque le pouvoir public est là pour demander à la population pour leur bien, les hommes, je veux dire, pour intervenir, pour faire comprendre à la population que non, cela, il va dans votre intérêt, au lieu de mettre trop de pression sur, donc, derrière les pouvoirs publics, c'est pour cela, ça ne marche pas avec notre gouvernement.
Adrien, on voudrait vous comprendre davantage. Donc, vous pensez, vous avez constaté qu'il y a des ONG de défense des droits de l'homme qui contredisent carrément les décisions des gouvernants, des autorités, et pourtant, ces décisions, vous pensez qu'elles sont favorables à la population, parce que là, on n'arrive pas à très bien vous comprendre.
Non, elles ne contredisent pas, mais elles font souvent sourd oreille lorsque l'autorité publique prend une mesure, elles font sourd oreille, mais lorsque, parce qu'il y a un adage qui dit si la volonté manque, la force intervient. Si la force pourra intervenir à ce moment-là, vous allez entendre ces objets-là crier à la tracasserie, crier donc avec beaucoup de vocabulaire qui qu'elles ont toujours.
Merci Adrien pour votre participation. François est le dernier auditeur. Bonjour François. François? On a perdu François qui est en ligne, nous appelait de Kinshasa. Nous revenons à vous, Maître Ruffin Luco. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Ce que nous retenons principalement, c'est que nous sommes très heureux de la réaction de tous vos auditeurs par rapport à une question qui les concerne, les droits humains. Et nous saluons donc l'action de tous nos activistes des droits de l'homme disséminés sur l'étendue du territoire national et qui, de temps en temps, sont les seuls qui font que le pouvoir public à Kinshasa soit au courant de ce qui se passe sur place. De temps en temps, et très souvent, il y a des endroits où on a l'écho de ce qui se passe parce qu'il y a eu des activistes des droits de l'homme qui ont parlé, qui ont dénoncé. Donc, nous saluons cette contribution à la refondation de la nation et à, n'est-ce pas, à l'évolution dans le respect des droits de l'homme.
Mais il y a plus de besoins, en fait. On sent que la population a un besoin.
Un besoin important, c'est pourquoi il faut d'abord rapprocher, comme on a dit, vous savez, les grands besoins de tous les territoires, notamment, commençant par Kisangani, jusqu'à Lubumbashi et Paraná, même à l'ouest, c'est principalement ce qu'ils appellent, ce que tout le monde appelle, la consolidation de l'autorité de l'État. Ça veut dire que l'État soit partout, que l'État soit partout, par la police et l'armée. Il y a des endroits où la police n'y est pas.
Que ce soit juste, que ce soit équitable, impartial.
Non, mais ça veut dire que la police d'abord est là. La police est là, donc ils ont besoin d'un interlocuteur où ils peuvent déposer leurs plaintes. Bon, principalement. Et deux, la justice. Après la police, la justice. Et lorsque la plainte a été instruite par la police, qui est une justice qui répond et qui sanctionne ceux qui ont violé. Alors, par rapport au mécanisme d'alerte rapide, comme on a dit, en ce qui concerne les activistes, parce qu'il faut qu'ils soient protégés. C'est donc le ministre a promis, par rapport au précédent réunion qu'il a eu avec eux, qu'il y aura une table ronde de monitoring chaque quinzaine. Il vaut s'attendre, ça sera chaque 2 mois ou chaque quinzaine.
que les ONG dans leur organisation à Kinshasa puissent rencontrer avec le ministre des droits humains, donc la justice des droits humains, pour faire le monitoring de toute la situation du pays. S'il y a des activistes qui sont sous menace ou qui ont été arbitrairement arrêtés, qui est donc une intervention immédiate de la justice ou du ministre de la justice. Et c'est l'avantage pour lui, c'est qu'il est à la fois des droits humains et de la justice.
Mais ça commence quand?
Non, une première réunion avait déjà eu lieu. On n'a pas encore installé l'organe. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit la fois passée, l'assassinat des collègues CBA est venu nous troubler tous dans notre détermination à préparer la fête de cinquantenaire et également à consolider le bureau et l'organe de ce comité national de liaison des droits de l'homme. Donc, en définitive, la conclusion. Je crois que lorsque le ministre était en train de le rencontrer, il rigolait en disant qu'il a remarqué que la plupart des activistes actuels sont ses anciens étudiants. Donc, il a d'abord une relation ancienne avec eux. Il est un professeur de droit judiciaire, ça veut dire qu'il a la possibilité de discuter sur toutes les questions avec tous ses partenaires congolais. Nous avons également dans notre patrimoine cette façon-là de suspecter tout le monde. Moi j'ai toujours crié et j'ai grandi avec une éducation qui me disait que nous-mêmes, les fous ont des amis. Ça veut dire lorsque je raconte une personne pour la première fois, il faut d'abord tenter, voir si celle-ci, ça fait marcher, celle-ci, ça fait marcher avec. Donc, est-ce que ces ministres, les choses peuvent changer? Nous, nous y croyons, les choses ont commencé à changer. Les activistes des droits de l'homme également, avec ce comité national de liaison des droits de l'homme, qui nous saisissent cette occasion pour que nous puissions créer quelque chose qui n'a pas été depuis tout ça, un organe qui est prêt par arrêter un décret du Premier ministre, mais qui peut être un précédent que nous pouvons éventuellement réformer si nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêté. Pourtant, l'organisation de cet organe, nous pouvons évidemment le modifier dans l'arrêté, mais au moins il y aura déjà un organe qui va consolider les relations entre les pouvoirs publics. Et les services de sécurité, notamment de l'IRE et les organismes des droits de l'homme. Donc, je crois que c'est un appel pour que nous puissions, dans la collaboration, consolider le respect des droits de l'homme dans notre pays.
Vous ne pensez pas que la population attend un signal fort de votre côté, par exemple, une grande personnalité qui soit jugée et que le procès arrive à la fin, que ce soit rendu équitablement? Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait aussi donner un peu de tonus, booster le
processus? Parmi les signaux forts, c'est d'abord, madame, j'ai parlé de 2500 magistrats pour 50 ans, et nous allons en désigner 2000. Soit presque la totalité du montant ou de l'effectif d'à deux ans. Ça, c'était une seule fois. Deux, en ce qui concerne le procès ou la situation d'enquête sur l'assassinat de Floribert Chebeya, tout le gouvernement a promis que toutes les grandes personnalités, s'il y en a, qui sont impliquées là-dedans, s'il y en a, elles seront traduites devant le juge, ça serait un grand procès. Et en ce qui concerne, pourquoi alors vous choquez le film de la première qu'on arrête un député? Parce qu'on veut des grands poissons. Alors si on en trouve un, pourquoi? Oh non, c'est un grand poisson, on l'a arrêté mal. Mais qu'on laisse la justice faire son travail. Donc, le gros poisson se retrouve dans les députés, dans les sénateurs, dans les membres du gouvernement, parce que, comme on l'a dit, le filet a été lancé, les paniers circulent encore, il peut apporter tout le monde. Et il faut donc que la population s'attende que non, on pourra arrêter un gouverneur, on pourra arrêter un ministre, et que le processus de tolérance zéro, voilà comment il poursuit son cours normal.
En tout cas, merci beaucoup, Maître Ruffin Louco. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui était consacrée au travail, aux actions des défenseurs de droits de l'homme.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Nous disons également merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont participé à cette émission, et aussi tous les auditeurs qui nous ont suivis en FM sur notre site internet www.radio4.net. Le prochain numéro de Parole aux auditeurs, c'est pour demain. Nous parlerons du nouveau mandat de la MONUC qui entre en vigueur à partir du 1er juillet 2010. La MONUC va devenir MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC. Question, qu'attendez-vous de ce nouveau mandat de la mission onusienne en RDC? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nicole Ngata, Cécile Poutou, Kérola Mézi ont réalisé cette émission et Alain Goy était à la mise en œuvre, Marie Chantal à l'animation. À la prochaine.